tous, coucou à toutes, vous êtes bien sur la radio PFM 99.9, je m'appelle Ambre et aujourd'hui je suis en compagnie de la magnifique Zoé,
coucou,
de l'incroyable Clémence,
hello,
de la talentueuse Lily et comme toujours du seul capable de supporter toutes ses filles, Charlie. Ensemble nous formons la fantastique équipe du Radiolab et dans cette émission nous allons aborder le sujet de la mode, mais plus particulièrement de la mode vestimentaire. Ensemble nous allons en apprendre un peu plus sur ce phénomène et nous allons surtout essayer de le comprendre. Pour cela, je vous propose sans plus attendre de commencer par un sujet qui fait débat depuis les JO de Tokyo 2020 et peut-être même bien avant, la mode dans le sport. Une chronique réalisée par Zoé et moi-même.
Même si vous n'êtes pas de grands adeptes du sport, vous constaterez tout de même que les femmes sont soumises à un code vestimentaire bien particulier, contrairement à leur homologue masculin. Les mini-jupes exigées pour le tenniswoman, bikini pour les joueuses de beach handball ou tout simplement une tenue obligatoire hyper féminine. Et ce sexisme envers les femmes ne date pas d'hier. Et oui, en gymnastique, au tennis ou encore au beach volley, la tenue a souvent un fort impact sur les spectateurs, le public et leurs réactions.
C'est vrai, dans ce genre de sport, une tenue est normalement prédéfinie, même si des alternatives sont possibles. En gymnastique, par exemple, la tenue la plus connue est juste corps court, souvent aux couleurs du club ou de l'équipe. Néanmoins, certaines préfèrent opter pour une tenue alternative.
C'est le cas notamment des gymnastes allemandes durant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
Le 25 juillet 2020, Elisabeth Zeitz, Sarah Vos, Pauline Schwetter-Bates et Kim Bui s'étaient présentées à la compétition vêtues de juste corps long, rouge et blanc. Et bien que cet acte soit complètement validé par la Fédération Internationale de Gymnastique, cela avait provoqué de nombreux débats chez le public et les téléspectateurs. Elles ont alors expliqué dans de nombreuses interviews qu'elles avaient fait ce choix pour des questions pratiques, mais aussi par confort, car durant la puberté, la tenue serrée qui caractérise la gymnastique peut s'avérer très gênante.
Les gymnastes ont également pris cette décision pour se préserver et préserver leur image, et surtout pour lutter contre l'hypersexualisation des femmes dans le sport. Ce choix a suscité de nombreuses réactions, tant positives que négatives. Les premiers avis qui ont été trouvés sont celui d'un entraîneur qui s'était confié sur la chaîne Allo Docteur, active encore sur YouTube. Il explique dans son interview « La gymnastique, c'est d'avant tout un sport avec un côté artistique qui est mis en valeur par une belle ligne de jambes, des bras et encore un beau port d'épaule, avant d'enchaîner avec le fait que cet aspect visuel doit être mis en valeur. » Bien que le juste corps soit un vêtement près du corps, il se trouve qu'il est fait pour ça, pour mettre en valeur le corps et les mouvements de l'athlète.
Un avis bien différent de celui des gymnastes qui l'entraînent, qui elle trouve que Sarah Vos et ses camarades ont révolutionné et créé un séisme dans le monde de la gym. Elle pense que dorénavant, chaque athlète pourra se sentir à l'aise dans son corps face au public et aux caméras. Ce ne sont pas les seuls à avoir été victimes de remarques déplacées sur le choix des tenues qu'elles portent pour effectuer leur discipline.
En effet, les joueuses de beach volley et de tennis ont également été victimes de polémiques suite à leur tenue.
Par exemple, durant les Jeux Olympiques de Paris 2024, les joueuses françaises Lesana Placette et Alexia Richard de beach volley n'ont pas concouru en bikini mais en short et brassière. Et suite à cette décision, le public leur a fait comprendre qu'ils étaient mécontents malgré le fait qu'aucune loi n'ait été enfreinte.
Suite à tous ces désaccords, les athlètes féminines sont bien décidées à affirmer leurs idées et préserver leur corps ainsi que leurs choix.
Le style vestimentaire, nous savons tous qu'il en existe des centaines. Les plus connus sont par exemple bohème, streetwear, Stockholm ou encore clean girl. Mais connaissez-vous le style vestimentaire issu de la mode alternative? Écoutons la chronique de Lily qui nous explique tout.
Pour commencer, je vais vous parler du style punk. Il débutera dans les années 70 au Royaume-Uni et aux États-Unis dans un contexte de crise économique, de chômage massif et de désillusion sociale. Le look punk se veut provoquant et contre les codes de la bourgeoisie. Il est caractérisé par des vêtements troués et customisés avec des épingles, des slogans, des bijoux cloutés et des chaînes, des cheveux colorés, rasés, en pique ou encore en crête iroquoise et des maquillages sombres, exagérés et androgynes. Les groupes de musique anglais The Sex Pistols et The Clash sont des figures emblématiques du punk. Le style punk évoluera en hardcore punk, en anarcho-punk ou encore en post-punk et il inspirera d'autres styles comme le grunge, le style gothique et le style emo. Ce qui nous mène au style grunge qui débutera fin années 80, début années 90 de mouvements musicaux comme le groupe de musique américain Nirvana. C'est un style anticonformiste et contre la mode luxueuse. En effet, Kurt Cobain, le chanteur de ce fameux groupe, s'habillait à l'époque uniquement avec des habits de l'équivalent de Carrefour ou Auchan aujourd'hui. Le mot grunge vient du mot grungy qui veut dire sale ou crade. C'est un style volontairement négligé et non genré, qui est caractérisé par des vêtements peu chers, des t-shirts à message, des jeans usés ou déchirés, et des Converse ou des Doc Martens. Ensuite, le style gothique, qui commence fin années 70, début 80, au Royaume-Uni, qui est originaire de la mode post-punk et du mouvement gothique musical avec The Cure, par exemple. Il est inspiré de l'imagerie romantique, macabre et victorienne pour venir s'opposer contre la culture pop. On y retrouve une forte présence de noir, avec des maquillages au teint blanc, des eyeliners et des lèvres noires, avec des cheveux parfois colorés mais la plupart du temps noirs. On y retrouve des influences victoriennes avec les corsets et de la dentelle. Mais le style gothique, c'est avant tout une mentalité. C'est dire non au système dominant et aux normes imposées, critiquer le patriarcat, revendiquer les libertés et bien plus. En 90, le style se diversifiera en goth romantique, en goth industriel et en cybergoth. Et pour finir, le style emo, qui naîtra fin 90 aux États-Unis, c'est une variante du hardcore punk des années 80. Emo vient de emotional hardcore. Le style se popularisera seulement début 2000 avec des groupes de musique tels que My Chemical Romance, Fall Out Boy et Panic at the Disco. Ce style est caractérisé par des jeans slim, des t-shirts à message, des mitaines accompagnées de bijoux en cuir clouté et de piercings, des cheveux colorés, noirs ou asymétriques et un eyeliner porté par tous les genres. Ce style revendique la sensibilité et les émotions, rejette le conformisme social et prône l'androgynie et la liberté d'expression de genre. Le style s'éteint peu à peu et renaît fin 2010 grâce au style e-girl ou e-boy créé sur internet, plus précisément sur TikTok.
Gothique, punk, emo, tout cela n'a maintenant plus aucun secret pour nous. Faisons maintenant une courte pause avec la musique Fashion Designer de Théodora.
Okay.
Toujours sur PFM 99.9, nous sommes l'équipe du Radiolab et nous venons d'écouter Fashion Designa, sorti en 2024 par la chanteuse Théodora, extrait de son album Bad Boys Love Story. Et suite à cette musique, vous devez sûrement vous poser la même question que nous. Comment décidons-nous de notre style vestimentaire ? Nous sommes rendus dans les rues d'Arras afin de vous poser la question. Alors bonjour, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre style vestimentaire ?
J'ai un style vestimentaire assez varié.
Oh là là ! Alors mon style vestimentaire, c'est le noir. Voilà, pas mal de pantalons noirs, soit t-shirt noir, soit chaussures noires également.
J'essaie de suivre un petit peu les tendances, je viens d'aller faire les magasins. Peut-être plutôt pas non plus extravagant, mais un peu tendance, un peu sport, pas forcément très habillé non plus, quelque chose de confort et d'agréable à porter.
Alors mon style vestimentaire est vachement aléatoire, en fait ça dépend vraiment du contexte dans lequel je me trouve. J'ai un style un peu pour le travail, un style plus décontracté quand je suis tout seul à la maison, un style aussi de soirée. Et le style que je préfère en fait c'est le style un peu de soirée, un peu loufoque, où on sait pas trop comment on est vraiment habillé, quelle couleur on met ensemble, mais où à la fin on rigole bien entre copains.
Chic,
décontracté, chic. S'il y a des pièces que j'aime bien, je les mets, c'est tout. J'ai pas vraiment de style.
Plutôt classique, au moins aujourd'hui. Et toi, ma chérie ?
Moi, vaste question, femme des temps modernes, qui a pu aller du vintage avec des pièces plus contemporaines. Je trouve que c'est ça aujourd'hui, le style élégant.
Ouais, c'est bien ça.
Voilà, c'est ça l'élégance pour moi.
Plutôt classique, passe-partout.
En mode sportif.
Moi, je dirais que c'est pragmatique, surtout, des choses pratiques. En fait, ouais. Plus que vraiment esthétique. Esthétique, c'est quand je sors. Sinon, les trois quarts du temps, c'est être à l'aise.
Moi, je dirais que le style passe avant tout. Même à la maison, je suis habillée, donc... Je dis que je fais toujours à peu près l'effort. C'est rare que je reste en jogging.
Est-ce que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou dans les médias influence votre style au quotidien ?
Ça va peut-être vous étonner, mais j'ai supprimé les réseaux sociaux depuis le début de l'été. Et justement, en partie parce que j'en avais marre de me comparer avec les autres. Et justement, je me suis dit, si c'est quelque chose qui me plaît, je le fais. Et peu importe la vie des gens, c'est moi qui ça regarde et voilà.
Oui, c'est vrai que je regarde avec ma fille et elle me conseille un petit peu sur ce qui est plus ou moins tendance. Donc je suis ses conseils.
Non, du tout. Non, du tout.
Pourquoi ?
Moi j'essaie de faire ça me plaît.
Oui.
Voilà.
Pareil.
Beaucoup parce que parfois on peut trouver des styles qu'on connaissait pas avant, qui nous plaisent au final et parfois donc ça influence, c'est possible.
Pas du tout, mais c'est de ma fille, oui.
Un peu, ouais.
Pourquoi ?
Parce que je me dis que ça m'irait bien, que c'est beau à la mode et tout.
Moi, je dirais que ouais, quand même, parce que j'y suis beaucoup, mais pas au point d'acheter tout ce que je vois, machin, mais je me dis, ça, c'est sympa, pourquoi pas, mais pas non plus à suivre toutes les tendances.
Alors, je ne vais absolument pas sur les réseaux sociaux.
Très bon choix.
Après, ce que je peux voir, effectivement, dans la presse ou à la télévision, effectivement, ça peut être amené à m'influencer à certains moments, oui, bien sûr.
Non, moi non plus sur les réseaux sociaux, hormis Instagram. Sinon, j'ai pas d'autres. Je vais pas sur les réseaux sociaux. Et après, sur Instagram, moi, j'aime bien regarder, par exemple, les défilés de mode lors de la Fashion Week. Ça peut être sympa. Et après, de se dire quelle peut être la petite pièce tendance qu'on peut nous s'offrir à notre niveau quand on n'a pas les moyens d'accéder sur des belles pièces luxe. Donc oui, mais ça n'influencera pas mon style vestimentaire.
Alors du coup, vous nous parlez des défilés, de la Fashion Week, etc. Est-ce qu'il y a une star en particulier qui vous influence dans la vie de tous les jours ?
Non, pas spécialement. Je dirais peut-être, ça paraît logique, mais les comptes de mode, tout ça, oui, ça influence beaucoup. Mais hormis ça, non.
Pensez-vous que vous habillez pour vous ou pour les autres ?
Je m'habille d'abord pour moi, évidemment, il faut que je me sente à l'aise dans mes vêtements, mais j'aime aussi m'habiller en me disant peut-être que ça va faire sourire les gens, peut-être que ça va les faire rire. Je me dis pas je vais m'habiller pour montrer, je sais pas, que j'ai des vêtements de marque ou ce genre de choses. Si je m'habille de façon un peu loufoque, c'est justement pour faire plaisir aux gens qui sont autour de moi aussi.
Oh, je m'habille pour moi, ouais, que pour moi. La vie des gens, franchement, moi, je m'en fiche. Les gens, ils me croisent deux secondes dans la rue, ils peuvent pas... Ils ne peuvent pas se permettre de juger mon style, ça m'importe peu.
Bon, parce que je pense que le but, c'est que je me sente bien dans ma peau. Et si je m'habille pour les autres et que je me sens pas à l'aise, ça serait compliqué, je pense.
Ouais. Pour moi, et essentiellement d'abord, ce que dans des vêtements dans lesquels je me sens à l'aise. Et après, effectivement, essayer de combiner pour que ça plaise à tout le monde, mais d'abord pour moi, clairement.
Ouais, même chose essentiellement pour moi. Maintenant, dans un cadre professionnel, on est aussi contraint de s'habiller, pas forcément comme on le souhaiterait, mais on est aussi tenu à une certaine rigueur au niveau de l'habillement, mais essentiellement pour moi, ouais.
Un peu des deux, je pense, parce que avant tout pour moi, mais ce que les gens pensent de nous, ça a quand même un peu cette place quand on sort, hein, tout le monde, je pense.
Non, moi, clairement pour moi, pour être à l'aise. Après les autres, je m'en fous.
Est-ce que vous préféreriez vivre dans le besoin de sans cesse entrer dans les cases ou est-ce que vous auriez préféré que cette norme, elle n'existe pas ?
J'aurais préféré que cette norme n'existe pas. Pouvoir avoir chacun sa propre pensée, sa propre façon vestimentaire.
Qu'elle n'existe pas, hein. Je pense que tout le monde vivrait beaucoup mieux. Moins de stress, moins d'angoisse. Puis chacun fait ce qu'il veut, hein.
Étant donné que je porte très peu d'avis sur ce que les autres disent de moi, pour moi, il n'y a pas de case, donc il n'y a pas de souci en fait. Ouais, pour moi, c'est réglé tout de suite.
Bah, pour moi, comme en fait, je suis pas forcée, j'ai pas réellement besoin, je me dis pas que j'ai besoin d'être dans les cases. C'est juste une influence par rapport à ce qui se fait et qui me plaît ou qui me plaît pas. Si je vois quelque chose qui est plutôt tendance mais que ça me plaît pas, je vais pas forcément l'acheter pour rentrer dans les cases.
Évidemment, j'espère qu'un jour toutes les cases seront cassées et qu'on sera tous libres de faire ce qu'on veut.
Non, c'est pas une norme qui devrait exister, on devrait être nous-mêmes, c'est tout, tout simplement. On devrait s'habiller comme on veut, c'est tout, il n'y a pas de... Ça dépend les finances de chacun, ça dépend plein de choses, hein. Ça dépend de ce qu'on aime, de nos goûts, des finances, des prix, puisque bon, maintenant, pour s'habiller, c'est assez compliqué, puisque c'est très cher, tout ça, donc on s'habille comme on peut et comme on veut, tout simplement.
Moi, je trouve que j'aurais préféré qu'elle n'existe pas. Après, on choisit de rentrer dans des cases ou pas. Maintenant, il faut aussi, à un moment donné, alors savoir peut-être se conformer sur des basiques, mais il faut aussi avoir de la personnalité et sortir des cases dans lesquelles on veut absolument nous mettre, d'ailleurs que ce soit dans la mode ou dans d'autres sujets.
Il ne faut pas être hypocrite, on se conforme tous dans des cases à certains moments de notre vie, parce qu'on vit en société, donc forcément, à un moment donné, tu es contraint, tu vois, à rentrer dans certaines cases. Je connais très peu de rebelles vrais, tu vois. Non, je me conforme pas. Donc, à un certain moment, t'es obligé. Oui. Ouais.
Toutes vos réponses nous ont permis de nous questionner sur l'origine de ce choix. Qu'est-ce qui influence le choix de notre style vestimentaire ?
On dit souvent que la mode, c'est une manière de s'exprimer. Mais est-ce qu'on s'exprime vraiment ou est-ce qu'on répète ce qu'on voit sur les écrans ? Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une influence énorme sur notre façon de nous habiller. Sur TikTok ou Instagram, il y a des tendances qui apparaissent toutes les semaines.
On ne parle même plus seulement de vêtements, mais d'esthétique. Clean girl, all money, streetwear, sophistiqué, vintage, Y2K, etc. Il faudrait choisir une identité entière qu'en fonction d'une tenue.
Et quand on regarde ces vidéos ou ces photos, tout a l'air tellement parfait qu'on finit par comparer nos vêtements basiques à ces looks hyper travaillés.
Du coup, on se met à acheter des choses non pas parce qu'elles nous plaisent vraiment, mais parce que c'est la mode.
Le résultat, c'est que beaucoup de gens croient se différencier, mais finissent par se ressembler. On parle d'originalité, mais on suit tous les mêmes codes, les mêmes marques, les mêmes poses.
Cela dit, il faut reconnaître une chose positive. Grâce au réseau, certains styles qui étaient invisibles ont enfin de la visibilité. Des personnes qui n'avaient pas leur place dans la mode classique peuvent maintenant montrer leur façon de s'habiller et ça ouvre des portes. Mais au final, la vraie question que chacun devrait se poser est simple.
Si personne ne devait me voir, si aucune photo ne devait être publiée, est-ce que je m'habillerais pareil ?
C'était une chronique de Zoé et moi-même et nous espérons que l'influence de la mode est maintenant aussi claire pour vous que pour nous. Avec tous ces styles vestimentaires, les influences autour de la mode font de nous une société de surconsommation qui a mené à la création du terme fast fashion que Charlie nous explique dans sa chronique.
Aujourd'hui, je vais vous parler de la fast fashion, puis je vais la comparer avec son contraire, la slow fashion. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la fast fashion ? La fast fashion, c'est le modèle économique dans lequel les marques produisent un très grand nombre de collections très fréquemment, à bas coût, pour inciter le consommateur à renouveler souvent sa garde-robe. Le résultat ? Des vêtements peu chers, mais souvent de qualité modeste,
avec des impacts sociaux et environnementaux lourds. Donc on va voir ensemble quelques chiffres clés. Par exemple, l'industrie textile représente environ 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. On vend chaque année 100 milliards de vêtements dans le monde, selon l'ADEME. En France, 3,3 milliards de vêtements ont été mis sur le marché en 2022, ce qui équivaut à plus de 48 vêtements par habitant. La production de vêtements a doublé en 14 ans, alors que la durée de vie moyenne des vêtements a diminué d'environ un tiers. Pour fabriquer un jean, il faut environ 7500 litres d'eau, soit un volume équivalent à ce qu'un être humain boit en 7 ans. Le coton, matière naturelle très utilisée, demande pour un t-shirt de 250 grammes 2500 litres d'eau, soit ce que consommerait un Français en eau potable pendant 17 jours. Voilà, maintenant nous allons voir les conditions de fabrication. Donc souvent c'est fait dans les pays d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Sud, comme le Bangladesh, où les ouvriers du textile travaillaient 12 heures par jour, 6 à 7 jours par semaine, parfois avec peu ou pas de protection sociale. Le salaire minimum dans ces pays est souvent très bas. Par exemple, au Bangladesh, les ouvriers revendiquent un salaire minimum de 23 000 taka. Donc les taka, c'est la monnaie là-bas, et c'est environ 180 euros. Mais ils n'ont obtenu qu'environ 12 500 taka, soit environ 100 euros par mois. Il y a aussi le non-respect des normes de santé, les substances toxiques dans les teintures ou finitions, les rejets chimiques dans les eaux usées. Tout cela a des réalités documentées dans les zones où la réglementation est peu appliquée et les contrôles sont peu rigoureux pour la sécurité des employés. Alors quel est l'impact environnemental ? Déjà dans la pollution des eaux, on peut constater que jusqu'à 20% de la pollution des eaux est imputable au traitement des textiles, donc teintures, finitions, etc. Il y a maintenant les microplastiques, donc il y a les fibres synthétiques, polyester, nylon, etc., très utilisé en fast fashion. Ça libère du microplastique à chaque lavage. Ces particules finissent dans les eaux, puis dans les océans. Donc c'est pas fou, quoi. Après, il y a les déchets textiles. En Europe, environ 20% des vêtements jetés sont réellement recyclés. Le reste est incinéré ou mis en décharge. Il y a également la surconsommation. Donc la fast fashion encourage des collections trop nombreuses. Les renouvellements fréquents donnent une durée de vie basse aux vêtements. Beaucoup sont portés très peu, puis jetés ou remplacés. Tout cela coûte en ressources et en qualité de vie, en santé, en biodiversité. Mais c'est invisible, souvent derrière les petits prix de nos achats. Et si on disait qu'il y a une autre manière de concevoir la mode, une manière qui cherche à remettre de l'équilibre, non pas en stoppant tout, mais en produisant moins, mieux et différemment. C'est là que je vais aborder la slow fashion. La slow fashion, ou mode durable éthique, c'est une réponse aux excès de la fast fashion. Elle propose de ralentir la production et la consommation, de privilégier des matériaux de qualité, durables, des circuits courts, des conditions de travail respectueuses et une plus grande transparence. Effectivement, la slow fashion a un impact environnemental positif. Déjà, il y a la réduction de l'empreinte carbone. Les vêtements issus de matières recyclées ou durables, coton bio, lin, chambre, fibres recyclées, consomment souvent jusqu'à 75% moins d'énergie que les équivalents de la fast fashion. Il y a moins de déchets. En prolongeant la durée de vie des vêtements, qualité, réparabilité, couture, seconde main, on diminue le volume de textiles jetés. Donc, c'est mieux. Au niveau des économies d'eau aussi, les matières biologiques au local nécessitent souvent moins d'eau et moins de produits chimiques, ce qui réduit la consommation d'eau potable globale pour la fabrication. Par exemple, en France, le marché de la mode durable ou éthique représentait environ 6,9 milliards de dollars en 2021. On estime qu'il dépassera les 10 milliards de dollars en 2026. Toujours en France, une partie croissante des consommateurs affirme vouloir acheter Made in France ou des vêtements durables. En 2022, les Français ont dépensé plus de 35 milliards d'euros pour leurs vêtements, mais 148 euros par an en moyenne pour des vêtements identifiés comme durables. Pour conclure, la fast fashion ne coûte pas que de l'argent. Elle coûte la santé des travailleurs, la qualité de l'air, l'eau, les écosystèmes et plus. Globalement, le futur. La slow fashion, elle apparaît non comme une mode, mais comme une nécessité. Moins de pièces, mieux faites, plus durables, plus respectueuses de la totalité des êtres humains, des ressources et de la planète.
La fast fashion est donc évidemment très utilisée dans notre génération de consommation excessive, mais des alternatives existent quand même. C'est le cas notamment des friperies, comme celles que sont allées interviewer Lily, Clémence et Nico.
Bonjour, donc Cindy pour la Fripadelle, 7 rue Paul Doumer à Arras.
Bonjour, moi c'est Tatiana, donc j'ai la boutique Pépite sur Arras rue Saint-Aubert.
Bonjour, je m'appelle Blanche et je suis responsable de la boutique L'Armoire de Mamé à Arras.
Quand est-ce que vous avez ouvert le magasin ?
Alors il y a 2 ans que je suis installée sur cette adresse et sinon ça fait 3 ans sur Arras.
J'ai ouvert en mars 2024, donc un peu plus d'un an et demi.
Alors cette boutique-ci, ça fait 2 ans et l'année précédente, j'étais aussi à Arras mais dans une autre rue, un peu plus excentrée. Et j'ai le projet qui existe depuis 5 ans.
Pourquoi avoir ouvert cette rubrique ?
Oh, alors, ça remonte à il y a fort, fort longtemps. Une jeune fille qui avait envie d'avoir du style sans dépenser beaucoup d'argent et qui a commencé à chiner aux Emmaüs et ensuite sur les brocantes. Et puis après, c'est devenu une passion tellement importante qu'elle s'est dit bah, pourquoi pas aussi proposer à d'autres les vêtements dans lesquels elle ne pouvait pas entrer, soit parce que c'était trop petit, soit parce que c'était trop grand.
J'ai ouvert parce que j'ai remarqué que moi, c'est que du street. Et qu'il n'y avait pas forcément cette offre-là sur Arras et qu'il y avait beaucoup de demandes parce que beaucoup de jeunes, c'est très étudiants, il y a beaucoup de lycées, etc. Et je ne trouvais pas de boutique, même pour moi, qui me plaisait en streetwear, donc j'ai décidé d'ouvrir.
J'ai ouvert la friperie de base parce que j'avais envie d'avoir ma propre entreprise qui soit en accord avec mes valeurs. Et je voulais proposer des vêtements de qualité à prix raisonnable au plus grand nombre de personnes. Donc c'est comme ça que ça s'est fait au départ.
Quel style de vêtements on peut trouver ici ?
Alors ici, on peut trouver des vêtements qui datent des années 60 aux années 2000, avec une majorité de vêtements des années 80-90, parce que ce sont des vêtements de mon enfance et donc j'y suis beaucoup attachée.
C'est uniquement des fabrications européennes, des fibres naturelles ou des vêtements faits à la main. Je m'en fiche un petit peu du style de la pièce du moment que c'est une pièce de qualité. C'est comme ça que la sélection est opérée.
D'où viennent les vêtements que vous vendez exactement ?
Alors les vêtements, je les trouve principalement depuis maintenant un peu plus de 20 ans sur les brocantes, les vide-greniers, mais aussi chez les particuliers.
Alors moi, ça vient beaucoup des US, donc États-Unis, et pour les jeans, pas mal du Japon. Et après j'ai du créateur, donc ça vient de Lyon. Et après tout ce qui est neuf, c'est des marques parisiennes, donc ça vient vraiment de Paris.
Alors je chine tout pièce par pièce, donc tout au début c'était uniquement des vide dressings et des brocantes, sauf qu'en ouvrant les boutiques sur Arras, forcément il a fallu un volume plus important. Et donc je me suis rapprochée de personnes qui font des vide maisons, et donc ils m'appellent quand ils ont un gros stock de vêtements qui pourraient me correspondre. Ensuite il y a toujours les vide dressings et les brocantes, je ne veux pas du tout passer par des grossistes pour que ça reste le plus local et le plus éthique possible. Et puis ensuite de temps en temps il y a des associations qui m'appellent aussi quand ils ont un surstock de vêtements, notamment une association à Lens et une à Perque. Voilà.
Quelles sont les tailles que vous avez ?
Alors ici, il y a un peu tout type de taille. On commence généralement au 28 et on va jusqu'au 60. Il y a des habits à la fois de coupe féminine et de coupe masculine. Donc ils sont adaptés à des coupes qu'on qualifie aujourd'hui d'unisexe.
Alors c'est très large. Je vais du XS, voire XXS. J'ai même du 8-9 ans pour les enfants. Et je vais jusqu'au 56 en pantalon et jusqu'au 5XL. Donc tu vois, il y en a pour tout le monde.
Alors la plus petite taille, ça va être du 32, mais j'en ai pas énormément. Et plus grand, je pense qu'actuellement, ça doit être du 60, mais c'est pareil, c'est plutôt rare. Généralement, le plus souvent, c'est du 36 au 46.
Est-ce que vous avez un peu peur de la concurrence avec la fast fashion ?
Bah, je considère pas que ça soit de la concurrence, mais c'est une énorme problématique aujourd'hui. Et si les gens pouvaient avoir conscience en fait, des dégâts occasionnés par la fast fashion, pour l'instant, on ne se rend pas forcément compte parce que quand on a un petit budget, c'est facile de dépenser 2 euros. On a envie de changer, de suivre la tendance et on redépense 2 euros pour des vêtements qui ne durent pas et qui ont un coût social et un coût environnemental. Donc on ne s'en rend pas forcément compte. On dépense, mais tous ces vêtements, en fait, on ne sera pas en mesure de les recycler. Et ce sont des gens qui, à l'autre bout de la planète, sont en train en fait, de payer de leur vie, des conditions en fait, de travail très difficiles. Et en termes de santé, en fait, tous ces dégâts, on ne les voit pas. Parfois, on achète les vêtements qui sont pleins de pétrole, qui sont pleins de produits chimiques. On les met directement au contact de la peau. Et on ne sait pas en fait, quels seront les problèmes sanitaires sur le très long terme. Donc moi, j'imagine en fait, des gros problèmes en termes de santé aussi sur des pays comme la France. Et pour l'instant, peut-être qu'on n'en a pas encore conscience.
Alors moi, ça va, j'ai ma clientèle. Après, est-ce qu'on a peur de la concurrence? Oui, toujours, mais pas de la concurrence des autres fripes qui sont dans notre ville. C'est la concurrence Vinted et Internet qui clairement nous pose souci. Ouais.
Alors compliqué, comme le secteur d'Arras est assez restreint. Quand on était beaucoup sur Arras, ça allait, vu qu'il y a des gens de Lille et de Paris qui venaient faire un tour. Là, pour le coup, on est moins nombreuses, donc on a un peu moins d'attractivité. J'ai quand même vu une amélioration depuis que la ville est classée en patrimoine touristique. Ça a un peu fait bouger les choses. Et la concurrence de la fast fashion, non, parce que c'est pas la même clientèle. Donc moi, en plus, en ayant opéré cette sélection-là, c'est vraiment des gens qui sont en recherche de pièces soit très originales, soit de grande qualité et qui veulent plus forcément, par souci d'économie ou d'éthique, justement acheter neuf.
Et en quoi vous trouvez que c'est bien les friperies d'un point de vue écologique ?
Alors, je pense que déjà là, en fonction de la fast fashion, c'est déjà important, c'est une implication. Mais je ne considère pas, en fait, c'est un mode de vie, donc c'est naturel. Je ne calcule pas, en fait, que ça soit sur l'alimentation, que ça soit sur les vêtements, que ça soit sur les dépenses énergétiques. C'est un tout. Et une fois qu'on en a conscience et qu'on discute aussi avec des proches, avec son cercle amical, c'est important que ça soit viral. Et ce n'est pas simplement être écolo pour être écolo. Et en fait, c'est du bon sens pour l'avenir et pour qu'on puisse vivre ensemble simplement.
C'est évident. Alors après, moi, j'ai du neuf. Donc, on va dire qu'en tout cas, c'est pas produit en Chine. À chaque fois, je fais attention à ce que ce soit produit quand même en Europe, etc. Mais si tu veux, le monde du textile, c'est le deuxième plus polluant au monde, après l'agriculture. Donc forcément, il faut faire quelque chose pour... En fait, on pourrait ne plus produire de vêtements et s'habiller encore pendant des millénaires. Là. Il y a assez de stock. Donc, c'est bien de proposer. Je propose les deux. Avant, j'étais que fripe, mais j'ai remarqué quand même que les gens aimaient beaucoup le neuf et on ne peut pas l'empêcher. Donc, c'était soit ça ou soit je fermais le magasin, tu vois. Donc, il faut faire des compromis dans la vie.
Parce que j'estime qu'on a assez de pièces qui existent sur la planète actuellement sans avoir besoin d'en fabriquer et encore moins d'aussi mauvaise qualité que ce qu'on trouve maintenant.
Donc si j'ai bien compris, vous ne faites pas appel à des centrales d'achat, parce qu'il y a des centrales d'achat aussi pour la fripe. Est-ce que vous pouvez un peu retracer le parcours du moment où vous l'achetez jusqu'au moment où il se retrouve dans votre boutique ?
Oui, c'est important. Ma méthode en fait de Chine, c'est une méthode aussi qui est vraiment liée à l'humain. C'est-à-dire qu'avoir un ballot, pour moi, c'est pas intéressant. Un paquet surprise qui généralement maintenant provient de grandes centrales liées au Pakistan. Il y a pas mal d'émissions en ce moment qui mettent en valeur des jeunes qui achètent des ballots impersonnels, clairement pour se faire du fric en parlant de manière familière, qui n'ont pas conscience des endroits justement où ils se fournissent. Ce sont des vêtements qui ont fait trois fois le tour de la planète, qui ont parfois été récoltés en France, donc qui se retrouvent au Pakistan ou dans d'autres pays pour revenir ensuite en France. Moi, c'est pas du tout ma méthode. Donc je chine à environ une heure maximum de chez moi. C'est une espèce de dogme que je me suis fixée. Donc sur les marchés, sur les brocantes, chez les particuliers, comme je le disais. Et ce qui est important, en fait, ce sont aussi les échanges, les discussions qu'on peut avoir avec les héritiers, parce que parfois, c'est la perte d'un parent, d'un grand-parent, et on échange, on se raconte des anecdotes autour d'un café, d'un petit gâteau. Et puis ensuite, on parle en fait des vêtements. Parfois, je regarde aussi des photos des vêtements qui ont été portés. Donc moi, je me considère comme une passeuse. Ici, c'est un lieu temporel où je récolte ces vêtements donc, que j'achète. Il n'y a pas ici de dons, c'est vraiment une entreprise. Et je raconte aussi ces anecdotes et j'attends aussi. Et parfois, presque je sélectionne la personne qui va acheter parce qu'il faut qu'elle fasse aussi honneur à la première vie du vêtement. Mais le but, c'est que ces vêtements soient transmissibles. Ils ont déjà eu une vie, ils peuvent en avoir une seconde et pourquoi pas une troisième, etc. Parce que ce sont des vêtements de qualité. Il y a 80% de fabrication française. Et c'est aussi la transmission d'un savoir-faire textile qui a un peu disparu aujourd'hui.
Alors, Alors je ne suis pas dans le vêtement en soi, mais j'imagine pour certains que ça vient d'abord aux États-Unis. Ils ont un peu des recycleries. En fait, c'est les Goodwill, je crois, ils appellent ça là-bas. Et donc, c'est des centres de tri qui, eux, après, envoient à des fournisseurs qui sont en France pour moi, mais ça peut aller aussi en Angleterre. Moi, par exemple, c'est à Rouen, mais après, tu peux avoir d'autres fournisseurs en France et après, ça arrive ici. Donc oui, ça vient quand même de loin.
Et quel traitement, toi, tu leur fais à ces vêtements ?
Alors moi, quand ils arrivent, je lave tout. Et après, bah, je regarde parce que souvent, il y a des taches ou alors ils sont cassés, il y a des trucs. Donc si c'est taché, bah, j'essaye de détacher un maximum. Si j'y arrive pas, bah, ça part dans ma malle à 1€. Et puis au moins ça fait plaisir à des gens, puis si eux ils veulent s'amuser, qui sont plus forts que moi dans le détachage. Et puis après, dès qu'il y a une zipette cassée ou quoi, j'ai une copine qui, ou même tu vois, j'emmenais à la mercerie avant, mais là ils font plus. Donc j'essaie de trouver quelqu'un autour de moi qui s'écoute, parce que moi non, et ils essayent de réparer la pièce. Ou là j'ai des stocks de trucs très abîmés, et j'ai une pote qui elle coûte très bien, et on va essayer de faire des vêtements avec tout ce qui est très abîmé, de faire des reworks, c'est un peu comme les vestes Carhartt. On prend plusieurs pièces, on en refait une, pour dire de jeter le moins possible, quoi.
On a appris que vous alliez fermer fin octobre, pourquoi exactement ?
Alors, en fin de compte, quand on travaille comme ça en indépendant et qu'on n'a pas d'employé, on a une énorme charge de travail et on vit quand même en précarité. Et donc jusqu'à maintenant, ça me convenait. J'étais en accord avec ça parce que je travaillais en accord avec mes valeurs et que ça ne me coûtait pas d'argent. Et sauf qu'en fait, depuis le début d'année, je ne sais pas ce qui se passe avec le comportement des gens, mais les clients ne supportent plus la frustration et ils deviennent insultants, vulgaires et très désagréables. Et en fait, moi, me priver d'une grosse partie de ma vie privée pour le travail et me faire piétiner à la boutique, c'était plus possible. Donc j'ai décidé de reprendre mes études et de mener d'autres projets.
C'était Blanche de l'Armoire de Mamé, Cindy de la Fripadelle et Tatiana de Pépite au micro de Lily, Nico et Clémence.
Clap, prise en vision panoramique, une caméra avance, gros plan sur Dominique. Seul devant la glace, elle ausculte son corps, puis crie machinalement encore quelques efforts. Tous les régimes sur elle furent testés, toutes les tentatives ont été des échecs complémentaires et persévères. Et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme. Elle emmagasine des magazines dans lesquels elle pense trouver le repos ultime. Mazo à l'assaut de ses formes rondelettes, elle était occupée à couper des PQ quand le piquet les fesses une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Lumière, celle de la te trèfle propose une tout nouvelle donnée, en voici la cause. Tellement d'efforts et pour quel résultat? Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids. Dominique réplique, puis très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip. Ainsi font 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 les petites filles coquettes, elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête. Victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Oh. Sont attestés, mais il faut faire attention. Espérons que vous aurez compris les bases très claires de ce code de déontologie. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est vraiment d'être bien dans sa peau. Victime de la mode, tel est son nom de code.
Vous êtes toujours sur PFM 99.9 et nous venons d'écouter la chanson « Victime de la mode » reprise par Angèle. Cette chanson était à l'origine chantée par MC Solar dans son album appelé « Qui sème le vent récolte le tempo ». Pour continuer sur la mode vestimentaire, on va voir que les jeunes sont eux aussi touchés par ce phénomène de la mode, notamment au sein de leur école, où les styles vestimentaires sont en plein cœur des cours de récré.
Depuis quelque temps déjà, la mode à l'école est un vrai débat. Certaines lois interdisent certaines tenues, comme celles à connotation religieuse, mais d'autres sont encore remises en cause, comme le débat sur le port de l'abaya, finalement interdit en 2024, ou encore l'entrée en vigueur du port de l'uniforme dans certains établissements scolaires, en primaire ou au collège. L'autre calvaire des élèves, c'est la soi-disant tenue décente, différente en fonction des établissements, mais citée nulle part dans les textes de loi. Alors, tous ces débats sont-ils légitimes ? Est-ce que la mode ne devrait pas avant tout être un moyen pour les élèves de s'exprimer ? Nous sommes allés dans les rues d'Arras pour vous demander votre avis.
Selon vous, qu'est-ce qui serait une tenue décente à l'école ?
Écoutez, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Ça dépend de l'attitude qu'on a en fait. On peut mettre un crop top et être classe, comme un chemisier fermé en haut et ne pas être classe. J'ai pas d'avis en fait. Franchement, je sais pas. J'en ai aucune idée.
Alors, c'est une question délicate, surtout de nos jours. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas mettre de frein à la liberté de chacun, mais il faut aussi prendre en compte les lois qui sont en place et les atteintes à la pudeur certaines. Effectivement, sortir avec un soutien-gorge transparent et un t-shirt transparent aussi, ou en maille qui laisse apparaître la totalité, ça me paraît être compliqué pour l'atteinte à la pudeur. Cela dit, sur le principe, je n'ai aucun et absolument aucun problème avec tout ce qui est crop top, jupe, soit masculin, féminin, aucun problème avec ça. Mais effectivement, quand on voit explicitement les parties, ça peut être comme des trucs trop serrés, mais un legging trop serré où on voit tout, bah, c'est compliqué. Donc, mais ça vaut pour tout le monde, les élèves, les profs finalement. Donc je pense qu'on devrait juste mieux réguler ça, suivre la loi, mais peut-être qu'actuellement c'est un peu trop sévère, je dirais.
Que pensez-vous des restrictions vestimentaires dans les écoles ?
Effectivement, parfois, c'est peut-être... Non, le short, la jupe, non, on est des femmes libres hein, quand même. Terminé ce temps-là, je pense. Mais encore une fois, c'est l'attitude, ça dépend. C'est comment tu te sens dans ton corps, comment tu te positionnes. Effectivement, j'aimerais pas que ma fille, elle soit avec... je sais pas, en fait, j'ai pas de... Pour l'instant, elle a 7 ans et demi, donc j'ai encore le temps de voir les choses, mais voilà.
Ça dépend de quelles restrictions. Il y en a qui sont clairement abusives et il y en a qui sont parfaitement justes, selon moi.
Bah, je pense qu'elles devraient changer, globalement. En tout cas, évoluer avec leur temps. Et ouais, pour avoir connu des amis ouais, qui se sont fait renvoyer chez eux, ou ils ont dû porter des sacs poubelles pendant toute une journée pour des vêtements qui n'étaient pas non plus, on va dire, provoquants. Je pense qu'on devrait vraiment réadapter et créer une norme commune à tous les établissements et que chaque directeur et directrice prenne sa responsabilité de suivre ce schéma-là et suivre... on va dire un schéma d'habillement, je ne sais même pas si ça se dit, mais un schéma d'habillement où comme ça on est ok sur les règles, tout le monde est au courant, tout le monde est d'accord, et puis on laisse les gens juste s'habiller comme ils veulent, tant que ça vient pas porter atteinte à la pudeur des autres.
Est-ce que vous pensez que l'uniforme pourrait réduire les inégalités sociales à l'école ?
Non. Même si j'adore l'uniforme, je pense que c'est du bullshit parce qu'il y a toujours les accessoires et on remarque toujours de toute manière les gens qui ont de l'argent ou qui en ont moins ou l'éducation qu'on leur donne. Cela dit, j'aime bien le fait de mettre un uniforme, mais je ne pense pas que ça ait un impact sur le fait que tout le monde soit à la même échelle. C'est pas vrai. C'est une utopie.
Alors, pour moi, oui. Alors, malheureusement, ça laisse moins de possibilités d'expression stylistique, on va dire. Mais évidemment, si tout le monde est habillé pareil, forcément, ça évite toutes les différences liées à l'argent, tout ça, par rapport à l'achat de vêtements.
Selon moi, non. Ça viendrait juste à créer d'autres problèmes. On viendrait juste déplacer le problème avec l'uniforme. Ça a été prouvé dans les autres pays qui l'ont mis en place, comme l'Angleterre, que c'est pas la solution à tous les miracles, des problèmes d'harcèlement, de discrimination envers les enfants. Donc pour moi, l'uniforme, c'est pas une solution. Donc en réalité, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Alors ça corrige pas mal de choses, hein. Je dis pas le contraire. Mais ce serait que déplacer des problèmes, donc je vois pas trop l'intérêt.
Selon vous, est-ce que les vêtements permettent de prendre confiance en soi dans le système scolaire et d'affirmer sa personnalité ?
Carrément. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est clair. Vous l'avez vu, non ? Ouais. Non, je pense que ça peut t'aider à prendre confiance en toi. Et puis, c'est comme les déguisements, hein. Quand tu te déguises, tu joues un rôle aussi. Ouais, carrément, je suis d'accord avec ça.
Oui, bah très clairement, si on s'habille comme on veut être, on devient, entre guillemets, la personne qu'on veut être, vestimentairement parlant. Et donc, évidemment, on peut s'affirmer par rapport à ce que l'on veut être.
Carrément, ouais. Les vêtements, c'est une manière de s'émanciper. C'est peu à peu, on grandit, nos vêtements nous définissent. Et il y en a beaucoup qui s'en servent comme un moyen d'expression, même comme une forme d'art, en réalité, et dès même très jeune âge. Et chacun a besoin de pouvoir s'exprimer à sa manière, toujours avec le respect de chacun. Mais pour moi, c'est important que chacun exprime ce qu'il a exprimé. Et ça commence par les vêtements, souvent.
C'est déjà la fin de cette émission. Nous remercions Leslie et Tania qui ont participé au micro-trottoir sur la mode à l'école. Et sur ce, nous vous proposons de nous quitter en musique avec Supermodel, une chanson issue de l'album Rush, sorti en 2023 par le groupe italien Maneskin. Vous étiez sur PFM 99.9. C'était Zoé, Clémence, Lily, Charlie et moi-même, Ambre, à la présentation de cette fantastique émission. A très vite!
Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let it go. Cause her boyfriend is a rock and roll. Save her every moment till she has to go. Cause her boyfriend is a rock and roll. Alone at parties, she's working around the clock.